Donc le préparer au sujet de ce soir, que je dirai immédiatement, et d'autre part, un enseignement sur la criminologie hébraïque, le thème de la violence, l'agression et la déviance dans la pensée et dans la société juive. Monsieur Rosti, comme vous le savez, est docteur en psychologie et il est chargé de conférences de psychanalyse à l'Université de Paris Nord. Il est l'auteur d'un certain nombre de communications, dont un livre important sur Mesmer et qui est Mesmer ou la révolution thérapeutique. Ce soir, il va nous entretenir d'un point de l'enseignement de Maïmonide, formulé de la manière suivante, la pensée hébraïque et la philosophie grecque dans la théorie psychologique de Maïmonide. Et le thème porte sur liberté et déterminisme. Je lui cède la parole.
Merci, cher Sandy. Ce n'est pas l'intention de vous parler de l'ensemble de l'œuvre de Maïmonide, l'être vaste, pour qu'on puisse en parler au cours d'une séance d'une heure ou une heure et demie. Mais je voudrais tout simplement parler d'un point très précis dans l'œuvre de Maïmonide où va s'opérer une véritable synthèse entre la pensée juive et la pensée grecque, c'est le problème de la liberté dans le comportement humain, de la liberté dans les agissements, dans la conduite, dans la personnalité de l'homme. C'est pour cette raison-là que je préférais ce titre, Liberté et déterminisme, pour bien situer le cadre de notre exposé. Pourquoi cela dans le cadre d'un séminaire, le séminaire de notre ami Léon Ashkenazi sur conscience juive et conscience grecque? Parce qu'il y a un cliché très répandu, une véritable légende qui se glisse dans l'histoire des idées et qui est très répandue et dans le monde juif et dans l'histoire générale, les clichés de l'opposition totale dans tous les aspects entre la civilisation juive et la civilisation grecque, considérée comme opposée, comme confrontée dans une lutte idéologique totale qui est le résultat de deux visions du monde, de deux conceptions de l'homme et de la vie diamétralement opposées. C'est de cette façon qu'on essaye de nous présenter l'opposition entre Grèce et Israël. Et pour vous citer quelques exemples, au XIXe siècle, on voit un philosophe juif italien de tendance très traditionnaliste, Chadal, Shlomo David Luzzatto, qui parle de l'opposition entre deux idéaux, entre deux systèmes de vie et du monde, le système qu'il appelle abrahamisme et l'atticisme. L'abrahamisme, c'est donc la foi d'Abraham. Abraham, le père du monothéisme hébraïque, et sa foi, la foi monothéiste, serait fondée, dit Luzzatto, sur la primauté de l'éthique, de la morale sur l'esthétique, donc primauté du bien sur le beau. Alors que l'atticisme, la philosophie des Grecs, dit Luzzatto, est fondée sur la primauté du beau sur le bien, de l'esthétique sur l'éthique. Les Grecs préfèrent la beauté à la bonté de l'âme, les Juifs préfèrent la bonté de l'âme à la beauté. Donc Luzzatto voit dans ces deux philosophies deux visions opposées et qui sont irréconciliables dans le monde. Plus près de nous, un autre philosophe juif, Léon Chestov, un philosophe juif russe, émigré à Paris, parle de l'opposition entre deux méthodes de connaissance du monde, la raison et la révélation. La raison, dit Chestov, est le propre d'Athènes, le propre des Grecs. La métropole des philosophes grecs, Athènes, a fourni au monde une méthode de connaissance de la réalité qui est fondée sur la raison, alors que la révélation est le propre de Jérusalem, la cité des prophètes hébreux. À ces deux interprétations, on peut associer parmi les historiens non-juifs la plus célèbre, l'interprétation d'Ernest Renan, le célèbre fondateur de l'histoire de l'Antiquité sémitique en France. Renan dit que l'essentiel de la pensée moderne, de la pensée de l'humanité contemporaine, est l'héritage grec, ce qu'on appelle les miracles grecs. Miracles faits de rationalité, de logique, de recherche de la vérité. La pensée judaïque, pour Renan, est une pensée pauvre, antiphilosophique, antiscientifique, ayant une seule justification, selon Renan, selon ce que Renan dit dans le dernier chapitre de son histoire d'Israël, c'est la place privilégiée accordée par les prophètes hébreux à la détresse humaine, aux pauvres, à la veuve, à l'orphelin, à l'esclave, à l'étranger, au journalier. Pour Renan, s'il y a confrontation entre la Grèce et Israël, c'est qu'il y a confrontation entre deux philosophies. L'une qui recherche la vérité à tout prix, c'est la philosophie grecque, et l'autre qui est passionnée de justice, c'est la pensée hébraïque. Pour Renan, bien entendu, il y a d'une part héritage grec et d'autre part la trace hébraïque. Et pas l'héritage hébraïque qui, pour Renan, n'existe pas. Donc l'histoire des idées, l'histoire des mentalités, l'histoire des civilisations, à notre avis, est infiniment plus complexe que ces trois clichés. Il nous semble que cette opposition entre l'hellénisme et le judaïsme est une opposition largement surfaite, bien plus qu'exagérée, elle est artificielle. Il convient de nuancer cette lutte idéologique et voir dans quelle mesure des tentatives ont été faites, et dans le monde grec et dans le monde juif, pour montrer l'accord entre ces deux philosophies au niveau de la vision de l'homme. Je me permettrai de signaler que les Juifs n'ont jamais connu vraiment la pensée hellénique à l'état pur. Ils sont entrés en relation avec le monde grec par l'intermédiaire des officiers macédoniens de langue grecque et de civilisation hellénistique, qui étaient déjà beaucoup plus marqués par la culture orientale. La guerre des Maccabées n'est pas une guerre contre la philosophie grecque. Elle est une guerre qui ne se dirige pas contre la médecine d'Hippocrate, ni contre la philosophie d'Aristote. Les Maccabées ne contestent pas la civilisation grecque à laquelle ils vont tout de même adhérer largement par la suite. Ils se révoltent contre la domination étrangère des Syriens de langue grecque. Mais la contestation totale et radicale n'existe que dans une minorité piétiste, qui lentement va céder le pas à une certaine intégration dans le monde grec. Intégration tout au moins dans l'acceptation de la médecine, des arts, des techniques, de la civilisation matérielle grecque et par la suite aussi de l'arsenal des idées grecques. Tout au long de l'Antiquité et du Moyen-Âge, la sagesse grecque exerce un redoutable pouvoir de fascination et d'intérêt sur le monde juif. Certains juifs professent une admiration aveugle, sans esprit critique, sans aucune lucidité. Ils admirent la sagesse grecque, la philosophie grecque, la science grecque. D'autres tombent dans l'excès opposé. Ils voient dans le monde grec, dans son ensemble, l'abomination de la désolation, la source de la corruption morale et intellectuelle. Le monde juif est divisé par le phénomène grec, par la contribution des Grecs à la culture humaine. Au juste milieu, entre cette admiration aveugle, sans esprit critique, et cette hostilité sans nuance, qui est le propre du parti antiphilosophique juif, se situe une pléiade de penseurs juifs qui veulent explorer les profondeurs de la pensée grecque avec un esprit critique, qui veulent comprendre le sens de la démarche philosophique grecque, qui veulent étudier les différences entre les penseurs grecs eux-mêmes. Des penseurs juifs sont donc conscients de l'extrême richesse et de la variété de la pensée grecque. Et ils veulent comparer cette sagesse grecque à la sagesse judaïque, à la sagesse de la Torah. Voir où se trouve le point de convergence et où résident les divergences entre Athènes et Jérusalem. En quoi la pensée grecque peut fournir des éléments à une réponse et de la pensée juive et de la pensée de l'humanité tout entière. Parmi cette pléiade des penseurs juifs, qui veulent explorer la pensée grecque et trouver dans un esprit lucide et critique, mais sans arrière-pensée, une nouvelle vision de l'homme, on trouve en tout premier chef Moïse Maïmonide, né en 1135 et mort en 1204. Donc, dans ce Moyen-Âge, qui est tout à la fois fasciné par le monde grec, aussi bien en pays d'islam qu'en terre de chrétienté, et de toute façon le monde juif est également fasciné par la culture grecque, qui est un élément qui va constituer, qui va fonder la civilisation médiévale. Et là, Maïmonide se pose le problème de la présence idéologique et philosophique grecque dans une nouvelle vision de l'homme. Maïmonide est philosophe, mais il est aussi médecin, astronome, codificateur, commentateur de la Mishnah, logicien. Et il est vraisemblable que Maïmonide n'aurait pas accepté l'idée de Shlomo David Luzzatto sur l'abrahamisme opposé à l'athéisme. Bien entendu, Maïmonide ne conteste jamais la suprématie de l'enseignement moral de la loi juive, considéré comme l'éthique et la meilleure fondée, puisqu'elle est le résultat et le reflet de la sagesse divine. Mais l'éthique maïmonidéenne s'inspire largement de l'éthique d'Aristote. Et sur cela, on peut discuter la profondeur de cette influence, mais certainement pas la nier totalement. En ce qui concerne cette opposition de Léon Chestov, le philosophe de l'irrationalisme, opposition entre la raison, connaissance limitée de la réalité et la révélation qui serait une illumination en profondeur, eh bien, je pense que Maïmonide aurait certainement contesté cette opposition entre Athènes et Jérusalem, et pour lui, la raison et la révélation ne sont pas deux modes de connaissance, mais deux niveaux d'une même connaissance de la réalité. En effet, pour Maïmonide, la loi juive n'est pas seulement une loi révélée, n'est pas seulement le fruit d'une révélation divine, elle est aussi l'expression de la rationalité. Tous les commandements obéissent à une rationalité incontestable. Et Maïmonide s'oppose à la division de Saadia Gaon entre commandements révélés, sans sens rationnel explicable, et commandements rationnels explicables à la lumière de la raison humaine. Tout comme Maïmonide s'opposera également à la division traditionnelle entre hukim ou lois qui ne sont que le fruit de la volonté humaine et mishpatim qui serait le fruit de la raison humaine. Toutes les lois pour Maïmonide découlent de la raison divine et pas seulement de la volonté divine. Donc, la raison est pour Maïmonide le centre de l'intellect. L'intellect est l'essentiel du Tselem Elohim, l'image divine de l'homme. Pour la connaissance de la réalité, seule la raison est valable. En ce qui concerne l'opposition entre recherche de la vérité par les Grecs et recherche de la justice par les Hébreux, cette division établie par Ernest Renan au XVIIe siècle, il est vrai que Maïmonide l'aurait nié, n'aurait pas admise, pas plus que les deux autres. Bien entendu, Maïmonide reconnaît qu'il y a une suprématie de certaines branches de la connaissance grecque sur la connaissance juive. Il est ainsi qu'il dira, par exemple, dans le Guide des égarés, dans le deuxième volume, un chapitre concernant les connaissances astronomiques des Grecs et des Juifs, où Maïmonide nous dit, dans le huitième chapitre, qu'effectivement, on sait que l'opinion des sages des nations du monde a la prépondérance sur l'opinion d'Israël en matière astronomique. Ce qui veut dire que la suprématie juive ne se manifeste pas dans toutes les branches du savoir, il s'en faut de beaucoup. Mais s'il y a, bien entendu, selon Maïmonide, suprématie des savants des nations du monde, donc des savants grecs sur les savants juifs, à un moment précis de l'histoire des sciences, cette suprématie ne veut pas dire qu'il y a indifférence de la part des juifs pour la recherche du réel. Il n'y a pas, pour Maïmonide, d'opposition entre Athènes et Jérusalem en ce qui concerne la recherche de la vérité. Et pour Maïmonide, il n'y aurait pas de contradiction, vraisemblablement, entre recherche de la vérité et recherche de la justice. Toute la justice étant, en quelque sorte, un aspect de la recherche de la vérité au niveau de la société. Donc, il y a opposition. Au niveau de la philosophie de Maïmonide, l'opposition essentielle réside dans un point précis. L'opposition entre le monothéisme hébraïque et le paganisme grec, pas entre la philosophie grecque et la philosophie juive. Il est clair que Maïmonide est parfaitement conscient de cette opposition radicale entre le paganisme officiel des cités grecques et le monothéisme établi par la loi mosaïque. Et dans le livre de l'Éléphant de la connaissance, le Sefer Amada, où Maïmonide parle sur Ilchot Avodat Kohavim, les lois concernant l'idolâtrie, et il explique clairement l'opposition de la Torah, l'opposition de la loi juive dans son intégrité, c'est-à-dire mosaïque et rabbinique, n'est pas simplement une opposition aux cultes orientaux, mais il cite de façon nominative Mercure et d'autres divinités du paganisme grec pour bien marquer que s'il y a opposition, cette opposition n'est pas simplement un conflit local entre des divinités locales en terre asiatique, mais c'est une opposition frontale également au paganisme grec qui n'est pas mentionné en toutes lettres dans la loi mosaïque, mais dans l'esprit maïmonidéen, doit être compris clairement dans l'opposition totale à toute forme d'idolâtrie. Mais s'il y a opposition, cette opposition au niveau culturel, au niveau rituel, au niveau religieux, doit-on pour autant dire qu'il y a opposition également au niveau de la philosophie? Et est-ce qu'on peut parler d'une philosophie grecque laïque, d'une philosophie grecque séculière, dégagée et libérée de toute emprise religieuse? Apparemment, non. Dans la mesure où, finalement, le paganisme grec ne se limite pas au culte des dieux de la cité, mais c'est aussi un mode de vie, un mode de pensée, un style de comportement, et on voit mal comment ce paganisme serait tout simplement un culte purement formel qui n'aurait pas de répercussions sur la vie intellectuelle de la cité grecque. Comment donc parler d'une philosophie grecque qui ne serait pas lié d'une façon ou de l'autre au paganisme? Eh bien, pour répondre à cette question, Maïmonide va faire ce que la plupart des philosophes et juifs et chrétiens et musulmans feront au Moyen-Âge, c'est-à-dire faire des philosophes grecs de monothéistes qui, d'une certaine façon ou de l'autre, se sont plus ou moins dégagés de l'emprise religieuse du paganisme, même si ils ne pouvaient pas proclamer clairement leur opposition aux divinités de la cité. Et de cette façon-là, les philosophes grecs, les philosophes juifs, musulmans et chrétiens au Moyen-Âge pourront faire d'Aristote ou de Platon les ancêtres d'une vision du monde qui se réclame du monothéisme. Mais le problème de la liberté du déterminisme va beaucoup plus loin, parce qu'il va permettre à Maïmonide de fixer sa théorie sur l'accord, sur la conciliation entre la philosophie grecque et la pensée hébraïque traditionnelle. Ce qui ne va pas sans difficulté. La philosophie grecque est préoccupée par les problèmes des lois de la nature humaine, par la place de l'homme dans l'univers, dans le cosmos. Par contre, le judaïsme classique est préoccupé par la place de l'homme dans la société, le rôle de l'homme dans l'histoire. De là, dans le monde hellénique, il y a un souci de connaître les lois de la vie humaine, de l'espèce humaine, la légalité, la régularité, qui préside au destin de l'espèce humaine, alors que la morale juive est préoccupée du singulier, de l'individuel, de l'exceptionnel. D'une part, recherche de la légalité, recherche des lois de l'homme dans l'univers. Et cela, c'est le propre du monde grec. D'autre part, recherche de la singularité, et cela, le propre du monde juif. Mais il n'y a pas dans l'esprit de Maïmonide de véritable opposition, d'antagonisme, des radicales confrontations entre ces deux visions. L'homme est un être de nature. Il est au nombre des créatures placées dans l'univers par une providence qui s'étend sur tous les êtres. De là que Maïmonide cherchera également à fixer clairement la nature humaine. En quoi obéit-il à cette situation de détermination et de légalité? Comment l'homme se place dans ce cadre programmé fixé dans le plan de la création? Est-ce qu'il n'y a pas contradiction, opposition entre l'idée de liberté humaine et l'idée d'un déterminisme dans les comportements, dans les actions, dans la personnalité humaine? Si la providence s'étend sur tous les êtres, si les législateurs légifèrent sur toutes les espèces, sur toutes les espèces, sur tous les niveaux de la vie, comment la liberté serait-elle possible? Comment concilier ce qui est apparemment inconciliable? Pour cela, il convient de placer le problème dans la perspective historique de Maïmonide. Quand Maïmonide parlera de la liberté du déterminisme, il n'est pas pour lui, ce problème n'est pas pour lui un problème purement théorique et purement philosophique. C'est aussi un problème qui va conditionner la vie humaine dans tous ses aspects, l'existence de l'individu et de la communauté juive. Maïmonide, me semble-t-il, est conscient de ce qu'on appellerait de nos jours l'aliénation idéologique, les croyances erronées, des croyances fatalistes qui vont plonger et les hommes et les communautés entières dans des illusions, des rédemptions et des damnations, où l'homme serait tout simplement une marionnette passive entre les mains des forces occultes, des forces inconnues, toutes puissantes. Il y a deux textes de Maïmonide qui montrent bien cette entreprise de démystification. D'une part, la lettre de Maïmonide aux Juifs du Yémen, Igeret Teiman, et d'autre part, la lettre aux savants juifs de Marseille, dite lettre sur l'astrologie. Dans la lettre aux Juifs du Yémen, qui sont émus par la présence d'un faux messie, qui va plonger la communauté dans l'illusion d'une rédemption immédiate et totale, et il y a dans la lettre des Maïmonides un avertissement très sévère contre cette plongée dans les merveilleux, contre cette fuite devant les réalités cruelles du monde contemporain, une recherche par Maïmonide du réalisme. Dans la lettre aux savants juifs de Marseille, où Maïmonide critique de façon violente toutes les formes d'astrologie, il ne parle pas de l'astrologie seulement en tant qu'astronome. Maïmonide a écrit effectivement des œuvres d'astronomie, mais n'est pas passé à l'histoire comme un grand astronome. Il parle de l'astrologie dans son effet de démobilisation morale de la conscience juive. L'astrologie qui va créer une sensation de fatalisme. Et il parle de la guerre des Judées à l'époque de Bar Kokhba, dit fils de l'étoile, fils des astres, donc dans l'interprétation maïmonidéenne, fils de l'astrologie. Cette époque où les Juifs choisissaient les guerriers en fonction du jour de leur naissance, et choisissaient les jours de bataille ou livraient des batailles aux troupes romaines en fonction des conjonctures astrales. Eh bien, Maïmonide dit, il aurait mieux fallu préparer les peuples à la lutte militaire, c'est-à-dire entraîner les peuples au combat, et voilà donc Maïmonide replonger dans son exigence de rationalité dans le comportement quotidien. À l'époque médiévale, il y a des idées fortes qui vont conduire des communautés entières, qui vont influencer les comportements politiques, les comportements sociaux, les comportements économiques, le comportement religieux des Juifs. L'enjeu est donc de taille. Ce n'est pas une discussion philosophique sur la théorie de la liberté, ou bien les Juifs vont tomber dans le piège des croyances aux pouvoirs inconnus, aux forces occultes, là, comme les astres, la nature et ainsi de suite, et ils vont conduire leur vie dans un sentiment de résignation, d'abandon, de défaitisme moral, de défaitisme intellectuel, ou bien les Juifs vont apprendre à reconnaître leur degré de liberté, le degré de liberté dont ils disposent dans leur vie quotidienne et conforme à leur nature. Et alors, par cette vérité libératrice, ils vont apprendre à conduire leur existence dans la voie de la raison. On peut se demander s'il suffit de connaître la théorie de la liberté pour se comporter un homme libre. Mais il est clair que pour Maïmonide, les idéologies agissent sur le comportement collectif. Et la lecture des épîtres, des lettres de Maïmonide aux communautés montre bien la tentative de Maïmonide d'exercer un pouvoir de démystification dans le comportement social, politique et religieux de la foule. Le huitième chapitre du traité maïmonidéen, dit Shmona Perakim, traité de huit chapitres, développe précisément cette question. Et c'est la raison pour laquelle je choisis ce chapitre pour mieux expliquer la doctrine maïmonidéenne. Il est clair que là, dans un traité qui se veut un traité de psychologie, c'est-à-dire destiné à préciser le rôle de l'âme humaine, il faut donc finir ce texte par une étude de la nature humaine. Et nous lirons donc quelques phrases du début de ce traité pour mieux situer la façon où Maïmonide va étudier les problèmes, et nous essayerons de voir dans quelle mesure il est tributaire et de la médecine hippocratique et de l'éthique aristotélicienne et aussi, bien entendu, de la tradition juive. Le chapitre qui est appelé « Du naturel de l'homme », bien entendu, le titre n'est pas de Maïmonide, il est impossible, dit Maïmonide, que dès le début, l'homme vienne au monde en possession d'une vertu ou d'un vice, de même qu'il est impossible que l'homme vienne au monde capable d'une œuvre quelconque. Il est incapable d'une œuvre quelconque. Nous verrons cela en quoi consiste le problème. Ce qui est possible, c'est qu'il vienne au monde avec la prédisposition à une vertu ou à un vice, de sorte que certaines actions lui seront plus aisées que d'autres. Ici, dans ces deux phrases, on trouve déjà trois idées fondamentales sur le problème de la liberté. Tout d'abord, il est impossible que l'on vienne au monde en possession d'une vertu ou d'un vice. Pas de vertu innée, pas de vice innée dans l'homme. L'homme n'est pas un criminel de naissance, il n'y a pas de criminel né dans la pensée maïmonidéenne. L'homme n'est pas un sadique de naissance, la table rase morale. L'homme n'a pas de vertu innée ni de vice innée. Et cela est un élément important dans la mesure où l'existence des vertus innées pourrait limiter considérablement la possibilité d'une liberté postérieure. Et signalons tout de même que la discussion est loin d'être close dans la psychologie des tempéraments, dans la caractérologie. En effet, ce que Maïmonide proclame ici dans la première phrase du 8e chapitre, la table rase morale, pas de vertus de naissance, pas de vices de naissance, est sérieusement contestée, même en criminologie, par les tenants de la criminologie classique, dont le juif italien Cesare Lombroso, qui parle de l'existence d'un criminel né et qui porterait en lui des tares héréditaires qui sont les fruits d'une régression vers l'animalité, vers la préhistoire, vers l'enfance. De façon telle que la table rase morale apparaît ici comme une doctrine qui est posée par Maïmonide, d'ailleurs de façon dogmatique, et c'est son style de pensée, dans la mesure où il pense qu'il s'agit d'une vérité fondamentale à établir, mais ne fait pas du tout l'unanimité du monde juif. Signalons tout de même qu'il y a des tenants d'un certain psychisme fœtal de l'existence des plusieurs vertus ou des vices qui se manifestent avant la naissance. Et cela, c'est visible dans la littérature midrashique, une littérature à laquelle Maïmonide, bien entendu, considère avec une certaine réserve. Deuxième doctrine, il est impossible que l'homme vienne au monde capable d'une œuvre quelconque, c'est-à-dire avec une un conditionnement vers un certain savoir-faire inné. L'homme ne peut pas être musicien né, ou artisan né, ou agriculteur né. C'est donc la table rase en matière d'intelligence pratique. Ce n'est pas la table rase intellectuelle, doctrine beaucoup plus vaste déjà, qui implique que l'homme ne reçoit rien avant la naissance. Ici, le point est très précis, c'est la table rase de l'intelligence pratique. L'homme n'est pas agriculteur de naissance, n'est pas ouvrier de naissance, n'est pas artisan de naissance, n'est pas savant de naissance, puisque en matière d'œuvres, c'est l'éducation qui va agir pour permettre à l'homme de développer des qualités, mais certainement pas d'autres choses. Bien, cela est connu. Réserve importante de Maïmonide par rapport à l'éthique grecque, dans la mesure où il n'y a pas donc dans cet esprit ce que Aristote considérait comme un élément important de son système social, à savoir l'existence des esclaves qui sont esclaves de nature et pas des esclaves de convention. Vous savez qu'Aristote considère qu'il y a des hommes qui sont des esclaves par convention, c'est-à-dire le résultat d'une guerre, ils tombent prisonniers, ils peuvent être réduits en esclavage, mais il y a d'autres hommes qui sont des esclaves de nature parce qu'ils portent en eux et déjà depuis leur naissance et même avant leur naissance les qualités requises pour le travail manuel. Et ce n'est pas donc l'esprit maïmonidéen, il n'y a pas donc des savoir-faire innés. Signalons tout de même qu'il y a ici une certaine prudence à traiter un sujet beaucoup plus vaste qui est traité déjà par Platon, à savoir y a-t-il une sagesse spéculative innée. Et cela se retrouve aussi bien entendu dans le Midrash célèbre qui considère que les enfants ils apprennent la Torah dans le ventre de leur mère et par la suite il y a un ange qui les ferme la bouche pour faire oublier cette loi mosaïque pour avoir par la suite le plaisir de la prendre une nouvelle fois. Mais sur cette question-là, Maïmonide, beaucoup plus prudente, ne parle pas d'une table rase en matière d'intelligence spéculative, mais seulement en matière d'intelligence pratique. C'est quand même une lacune dans la mesure où nous ne savons pas quel est le fond de sa pensée sur la question. Troisième élément, déjà, qui figure dans la même phrase, mais qui montre très bien la richesse des idées maïmonidéennes, et ce qui est possible, c'est que l'on vienne au monde avec la prédisposition, c'est-à-dire donc ce qu'on appelle, n'est-ce pas, mukhan, c'est-à-dire prédisposition à une vertu ou à un vice. Teva mukhan, ce n'est pas donc la nature, c'est la prédisposition, ou un vice ou une vertu, de façon que certaines actions lui seront plus aisées que d'autres. Et cela veut dire qu'il n'y a pas donc de prédestination, s'il n'y a pas de détermination stricte, s'il n'y a pas de fatalité biologique, il y a tout de même des conditions et des circonstances qui sont fixées et par la constitution et par les tempéraments. Là, on retrouve l'influence fondamentale de la science grecque dans un des aspects les plus incontestés au Moyen-Âge, la doctrine des tempéraments. Cette influence n'est plus contestable. Regardons de près ce que Maïmonide nous dit. Si par exemple le tempérament d'un homme est enclin à la sécheresse, tempérament voulant dire le mélange des substances liquides qui vont donner de l'énergie, de la vitalité, du tonus au corps humain et par là même à son âme. Si le tempérament d'un homme est enclin à la sécheresse, la substance de son cerveau étant pure et contenant peu d'humeur, cet homme retiendra plus facilement et saisira mieux les idées, qu'un individu flegmatique dont le cerveau est plein d'humeur. Autrement dit, il y a déjà des conditions biologiques, conditions anatomiques et physiologiques qui vont faciliter la perception du monde réel ou qui vont, en quelque sorte, mettre des obstacles. Ce sont des obstacles, non pas de niveau épistémologique, mais des obstacles dans la perception, dans la sensation. Mais, cela dit, rien n'est dit ni sur les contenus de la perception, ni sur la richesse de la perception de cet homme ou de l'autre homme. Qu'on laisse l'homme prédisposé par son tempérament à cette aptitude intellectuelle, sans qu'il reçoive aucune culture, et sans qu'aucune de ses forces ne soit convenablement dirigée, il demeurera ignorant à coup sûr. Donc, aucune sagesse n'est possible sans l'avoir de l'éducation, sans l'intervention fondamentale de l'environnement, du milieu éducatif. Mais inversement, qu'on instruise et qu'on exerce celui dont la complexion est épaisse et abondante en humeur, il apprendra, il saisira, avec difficulté, certes, il est vrai. Donc, s'il y a d'une part facilitation, au sens physiologique du terme, c'est-à-dire que la constitution physique et par voie de conséquence son psychisme favorise chez un homme la compréhension, la perception du monde réel, il peut y avoir donc un apprentissage beaucoup plus rapide, beaucoup plus intensif que chez un autre. Mais, de toute façon, il n'est pas donc déterminé par son tempérament. Et il y en a donc sur cela un autre exemple cité par Maïmonide, quelqu'un dont le cœur a un tempérament un peu plus chaud qu'il ne convient, sera courageux, je veux dire porté au courage, et si on l'enseigne le courage, il deviendra aisément courageux. Tandis qu'un autre dont le cœur a un tempérament un peu plus froid qu'il ne faut, il est enclin à la lâcheté, à la peur, et si un autre on lui inculque, on lui accoutume la peur, il contractera aisément cette habitude. Mais si on se propose de le rendre courageux, il y arrivera, avec quelques peines, certes, mais à la condition absolue qu'il apprenne. Donc, voilà des exemples qui vont nous mettre sur la voie de ce que Maïmonide veut dire, à savoir la doctrine des tempéraments. Alors, on peut se poser la question, pourquoi tout de suite après cette phrase, il vient nous dire une autre phrase qui ne semble pas suivre la suite logique des événements, puisqu'il nous parle, il nous dit la chose suivante, je te donnais cette explication pour que tu ne prennes pas au sérieux les divagations qu'imaginent faussement les partisans de l'astrologie. Lorsqu'ils prétendent que selon les moments où naissent les hommes, ils sont au vertueux ou vicieux, qu'un individu est irrésistiblement contraint d'accomplir ces sortes d'actions. On peut se demander en quoi cette phrase serait complémentaire de la phrase antérieure. Et pour cela, il faut revenir au fondement de la théorie des humeurs, de la théorie des tempéraments, qui est celle de Maïmonide. En quoi et comment Maïmonide explique l'existence des quatre tempéraments? Bon, comme je n'ai pas donc peut-être besoin de vous dire, le monde grec admet en général que le psychisme humain, l'âme, les passions, les vertus, les vices sont largement conditionnés par le tempérament qui est, bien sûr, le mot grec voulant dire le mélange des humeurs, idée lancée en quelque sorte par la médecine hippocratique, par Hippocrate, mais reprise par Aristote sur un mode philosophique. Les quatre tempéraments qui vont être réinterprétés au Moyen-Âge par le théologien juif, avec différentes formules, les quatre tempéraments sont donc liés aux quatre humeurs classiques. Bon, je vais vous donner une idée de cela, l'idée qui est celle d'Hippocrate, et je vous dirai par la suite comment au Moyen-Âge les Juifs ont réinterprété ces quatre tempéraments. Il y a un tempérament sanguin. Il y a des hommes donc qui sont portés à l'action, à la violence. Et c'est un tempérament chaud et un tempérament humide. Donc un tempérament d'activité, débordant d'activité. Bien entendu, Hippocrate va attribuer ce surcroît d'activité au surcroît du sang dans l'organisme. Et il va nous dire, évidemment, il s'agit de l'action du cœur, le cœur étant le siège du sang. Bien entendu, ce n'est pas le siège de la circulation du sang, c'est le siège du sang. Et ce tempérament qui est chaud et qui est humide, bon, c'est repris par la suite par Aristote, mais il y a un autre tempérament qui, lui, il est chaud également, et qu'il est sec. C'est le tempérament colérique, coléreux. Coléré, voulant donc dire la bile jaune, considérée donc comme responsable de ce tempérament sec, de ce tempérament chaud, qui va agir donc sur les êtres humains. En hébreu, les médecins hébraïques parlent de mara seuba. Et on nous dira donc les gens qui font de la bile, mais bien entendu, l'idée centrale ici, c'est que ce surcroît de fluide vital sec chaud va agir sur le comportement. La question consiste à savoir dans quelle mesure l'homme est libre d'agir ou ne pas agir dans cette voie. C'est un problème qui va se poser au Moyen-Âge dans le cadre juif. Troisième tempérament, il y en a bien entendu quatre, qui est le tempérament humide et froid, flegmatique, qui est donc le tempérament de la flegme, de la lecha levana, des médecins hébraïques du Moyen-Âge, tempérament flegmatique, donc indifférent, apathique, insensible aux passions, mais parfois pathologiquement insensible parce qu'incapable de réagir de façon correcte aux injures, aux diffamations. Signalons tout de même la grande controverse dans le monde grec, est-ce que le tempérament flegmatique est le tempérament idéal ou non? Bien entendu, les stoïciens seront portés à admettre que ce tempérament sera plus aisément porté vers l'apathie, c'est-à-dire vers l'indifférence à la souffrance, mais pour Aristote, ce n'est pas une vertu. Et cela, bien sûr, on nous dira que c'est le cerveau qui est donc le siège de cette pituite, de cette flegme, de façon telle que les débordements de cette substance humide et froide va agir dans le sens d'une indifférence, d'une insensibilité. Le quatrième tempérament, c'est le tempérament mélancolique, du grec mélancolon, qui est donc la bile noire, l'âtre bile, en hébreu, mara shechora. Les baalé mara shechora de la médecine hébraïque sont des gens froids et secs, portés vers la nostalgie, donc ce qu'on appellera par la suite la mélancolie, le terme étant donc Hippocrate, portés vers la tristesse, à la différence des flegmatiques. Eux, ils sont secs, c'est-à-dire ils ont beaucoup plus de mobilité et ils sont donc dans une indifférence envers le monde extérieur, mais en même temps une sensibilité accrue envers eux-mêmes. Et ce tempérament de la Mara Shechora est donc connu déjà comme un tempérament atrabiliaire, parce que du mot atrabile, c'est la bile noire. Les savants juifs ont essayé de rattacher ces quatre tempéraments aux quatre éléments du premier chapitre de la Genèse. Le tempérament chaud et humide serait le tempérament de l'air, Ruach. Ruach étant considéré donc dans la philosophie juive médiévale comme synonyme du mot air qui n'existe pas dans la Bible. Et ce tempérament, donc, il est mobile, il est flexible, il est en quelque sorte actif et dynamique, tout comme l'air, tout comme le ruach Elohim et la chesed al pnei amayim, comme le souffle du Seigneur qui était sur la surface des eaux. Alors que le tempérament flegmatique est considéré comme le microcosme, comme la représentation dans l'homme de l'influence de l'eau. L'eau qui est humide et froide. On revient ici au deuxième élément des quatre éléments. L'eau, Maïm, qui figure également comme directement liée au vent, à l'air, dans les premiers chapitres de la Genèse. En ce qui concerne le tempérament mélancolique, il est considéré comme directement rattaché à la terre, Erez, le troisième élément de la nature. Et dans la mesure où les hommes sont porteurs d'une constitution physique, où l'élément terrien est beaucoup plus puissant que l'élément aérien, le résultat, ça va être donc un tempérament nostalgique, un tempérament mélancolique, à traduire. Alors que le quatrième élément colérique, il est directement lié au feu. Maïmonide explique que le mot feu se trouve déjà dans les premiers chapitres de la Genèse. Bien entendu, ce n'est pas le mot esh, c'est le mot kosher. Et l'explication donnée par Maïmonide, c'est que le premier feu, le feu élémentaire créateur, le feu qui est à la substance, qui est à l'origine des éléments de la nature, c'est un feu diaphane, donc un feu qui n'est pas sensible, qui n'est pas perceptible à l'œil humain. Tempérament donc colérique qui, comme les feux, il est immédiatement brûlant. En quelque sorte. La question jusqu'à là ne consiste pas à savoir dans quelle mesure ces quatre tempéraments existent. Bien entendu, la psychologie moderne est tout de même assez partagée sur la question. Mais j'ai ici un tableau qui montre clairement que depuis l'Antiquité jusqu'à nos jours, tous les systèmes de caractérologie sont une continuation pratiquement des quatre tempéraments d'Hippocrate, et cela en arrivant jusqu'à Jung, Clark et ainsi de suite. Mais le problème n'est pas là. Ce système-là, le système des quatre tempéraments, constitue la partie la moins controversée de la pensée grecque dans le monde juif. Et ceux qui s'opposent à la chochma yevanite, ceux qui mettent en doute la sagesse du monde grec en matière philosophique, admettent tout de même que les quatre éléments de la nature conditionnent quatre humeurs dans l'organisme, et ces quatre humeurs vont créer quatre tempéraments, et ces quatre tempéraments vont créer quatre types de personnalités humaines. Toute la question consiste à savoir dans quelle mesure il y a conditionnement et quel est le degré de liberté qui reste donc à l'homme. Parce que si on admet que les feux conditionnent en quelque sorte la mara tseouva, la colère, n'est-ce pas, la bile jaune de l'homme, c'est une idée qui finalement n'est pas profondément révolutionnaire à l'époque, mais il faut savoir si l'homme il peut maîtriser sa colère ou si cette colère est une pulsion irrésistible que l'homme ne peut pas maîtriser. Il n'est pas non plus problème d'admettre que le surcroît de sang dans l'organisme peut évidemment créer un tempérament.